Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, c'est la chronique histoire, la numéro... Combien en fait ?
3, non ?
3 ou 4 ? Je sais pas. Bah, non, on s'en fout pas, c'est ma chronique histoire.
Mm-hmm.
On va dire la 4, allez. Même si c'est la 3, c'est pas grave. Alors, on en était où la dernière fois ? On s'était arrêté au moment où les trois royaumes de Corée avaient plus ou moins fini de se créer, je crois. Ils se faisaient la guerre un petit peu, les frontières bougeaient un petit peu aussi, la Chine lançait quelques attaques, un petit peu. Et on en était là environ au 6e siècle.
Okay.
Si je me souviens. Ah oui, si, ça y est, la dynastie Tang qui s'était fait éclater la gueule par Koguryo.
Ouais. Mmh.
Bref, bah, on a vu la création des trois royaumes, donc là ils sont bien, ils sont installés, ils sont tranquilles, ils sont dans leur fauteuil avec leur charentaise en train de lire le journal. On va voir un petit peu d'un point de vue civilisation qu'est-ce qui s'est passé.
Mmh.
Donc. Déjà, niveau politique, social, les trois royaumes, donc, c'était bah, des royaumes. Hein. C'est, enfin, voilà, quoi, les royaumes, c'était des royaumes. Excusez du... Bref, c'est-à-dire, en fait, il y avait un, c'était gouverné par un roi ou une reine avec un gouvernement centralisé autour de la monarchie. Bref, c'était des royaumes, quoi.
Voilà.
Le peuple, donc, était divisé en deux. D'un côté, on avait les aristocrates.
Les aristochats.
Non, l'aristochat, il est dans la salle de bain. Enfin, devant la salle de bain. Il n'y avait pas d'aristochat en Corée. Pas encore. Mais bon, bref, on avait les aristocrates donc, qui dirigeaient bah, tout, en fait. Ils étaient en charge de l'administration, de l'armée, de l'enseignement, tout ça.
Ce qu'on appelle les lettrés.
Voilà, si tu veux, les lettrés, les militaires. Et de l'autre côté, on avait les paysans et les esclaves qui s'occupaient bah, des travaux productifs. Donc tout ce qui est agriculture et construction.
Mmh.
On en est donc au 6e siècle. Ça fait un peu loin, donc on va retourner en arrière. Pour parler de civilisation, on va retourner en 372. Déjà, rapidement. Petit soin en 372, c'est en 372 que le bouddhisme arrive à Koguryo.
12 ans plus.
Ouais, ta-ta-ta, comme tu dis. Ta-ta-ta. Moi, la mienne, je ne sais pas ce qu'elle devient. Ma ta-ta. Bref, 372, le bouddhisme arrive à Koguryo. En 384, donc, tu y sais combien d'années plus tard ?
Ça va. Calcul mental, non, pas pour moi, merci.
12. On 12. Était en 372, on fait 4, on arrive en 384. Donc, 12 ans plus tard, un moine indien introduit le bouddhisme à Baekje. La religion s'étend tranquillos.
On en a parlé, ça, un peu dans le Voyager, le moine bouddhiste, tout ça, là, le moine
ah,
indien.
Oui, c'est très possible qu'il faisait des temples.
Ouais.
Le moine indien monomaniaque qui faisait des temples avec des temples et qui faisait des temples et quand il finissait un temple, il faisait un temple avec un temple. Ouais. Bref, petit retour vers le futur. J'ai pas ma DeLorean, mais on va le faire quand même.
Il fait comme la série là, tu sais, les flashbacks et après retour vers le présent, flashback, flashback,
yeah.
Flashback.
Oui, en fait, vous écoutez Lost by Eric.
Lost in Korea. Enfin bref, j'en étais où, moi, 372, le bouddhisme arrive à Koguryo, 384 à Baekje et 527, voilà. En 527, un moine de Koguryo qui s'appelait Ado se retrouve à Shira et il prêche la bonne parole.
Wow.
Donc, pseudo-guéguerre de religion dans le royaume, en fait, le bouddhisme s'étend de plus en plus rapidement. Et ça clash un petit peu avec les croyances primitives qui sont plutôt bien ancrées dans les esprits. Disons que le temps que le bouddhisme arrive, tout ce qui est confucianisme, tout ça, c'était déjà là et ça a eu le temps de bien s'installer.
Exactement, bien sûr.
Ça, et éventuellement d'autres religions un peu plus primitives, je sais pas trop.
Le confucianisme n'étant pas une religion.
Oui, c'est un système de...
C'est une doctrine.
Doctrine, voilà.
Ben,
Mais
on
bon,
peut dire
bref.
le bouddhisme aussi, les gens ils disent que c'est une doctrine.
Mais c'est plus une religion quand même.
Oui, plus que confucianisme en effet.
Enfin bref,
Mmh.
tout ça, ça s'est un peu clashé. Mais le bouddhisme aura fini par gagner. En fait, ça s'est passé au début du 6e siècle, en fait, en 535. Un martyr du bouddhisme, Li Chadon, je crois. Li Chadon.
Donc les shadows, certainement.
Oui. C'était un fonctionnaire du royaume qui a prophétisé qu'à sa mort, son sang coulera blanc comme le lait, ce qui prouvera à tous la pureté du bouddhisme. Et je sais pas, mais moi, si je me coupe et que mon sang coule blanc, je me dis pas, il est très pur. Je me dis, je suis
Je
malade,
bue
je
un peu trop de lait.
vais.
Enfin bref, il meurt et Shila adopte officiellement le bouddhisme comme religion d'État. Donc au niveau populaire et au niveau aristocratique, tout le monde est bouddhiste. On est en 535. Le bouddhisme, du coup, en tant que religion d'État, bah, ça devient des liens en fait des États, des trois États. Ça devient, si je devais faire une grande phrase, je dirais que ça devient le lien spirituel fondateur d'un État uni.
C'est beau.
Ouais. J'ai l'esprit poétique. Bref, ça devient un petit peu donc ce que je disais, un lien spirituel pour toute la population de Shilla et de Baekje, Koguryo aussi hein, d'ailleurs. Et ça permet du coup de développer un peu plus facilement la culture des royaumes. C'est plus ou moins le christianisme en Europe, en fait. À cause du christianisme, il y a eu énormément de développement au niveau de la culture et des arts.
J'aime bien le à cause. Normalement, ce serait pas genre grâce.
Non, non, c'est à cause. Je suis anti-chrétien, je dis donc à cause. C'est quand même au Moyen-Âge, c'est quand même le Moyen-Âge chrétien, tout ça, qu'on appelle l'âge sombre.
Oui, mais
Pour
en
rappeler.
attendant,
Bref.
si c'est parce qu'il y a eu ça qu'il y a eu des développements, on dit grâce.
Oui, au niveau des arts, je parle.
Oui.
Mais c'était des arts, c'était de l'art
Et du
catholique
cochon.
uniquement. Oui, effectivement, on n'était pas musulmans, on avait le droit de manger du cochon. Bref, là, on est en Corée, donc c'est bouddhique, l'art, il est bouddhique. Et du coup, en l'honneur de Bouddha, eh ben, on construira de nombreuses pagodes et des temples. On se rappelle tous du moine indien hein, qui construisait des temples.
Toujours un truc dans la vie, son but.
Donc des temples, des pagodes, des statues du Bouddha de plus en plus raffinées, des peintures, des danses, des chants, tout ça. L'ascension du bouddhisme, au passage, y permettra aussi l'ouverture des royaumes, en créant pas mal de contacts avec le monde extérieur, la Chine, l'Inde, d'autres pays un peu plus éloignés, notamment le Moyen-Orient. Et le Japon aussi, mais j'en parlerai un peu après. C'est d'ailleurs en Corée que sera retrouvé le plus vieil observatoire astronomique. Alors je ne sais pas si c'était pour observer les étoiles dans un but astronomique ou astrologique.
Ouais, le
C'est
truc qui est
fou, c'est ce
drôle,
que
c'est
j'avais dit,
que
quoi.
ouais, les gens ne le savent pas non plus,
Mais
quoi.
on en avait parlé dans Voyager. Bref, il s'appelait comment tu le...
C'était juste nommé l'observatoire en fait, je crois, l'observatoire de je sais plus quoi
Chomsong-Dae.
là. Ouais.
Quelque chose comme ça.
Que vous pouvez retrouver donc à Gyeongju.
Ouais. Gyeongju,
Petite
qui
ville.
était donc Shilla à l'époque.
Ouais.
La
Capitale de
capitale.
Shilla.
Ouais, la capitale de Shilla. C'est aussi en Corée, dans la péninsule. Pardon, je dis en Corée, c'est dans les. Je fais un mix des trois royaumes en fait. C'est ce que je ne sais pas où exactement elle aura été, ça, tout ça aurait été fait, mais c'est en Corée que sera dessinée l'une des plus vieilles cartes du ciel. Au passage.
Certainement pas loin de l'observatoire, je pense.
Certainement, oui. Il y a probablement un lien entre les deux. Et en fait, toute cette ouverture vers les autres pays, ça permettra en fait de développer pas mal de faire beaucoup de progrès dans pas mal de domaines. Notamment la médecine, l'enseignement, les maths, l'architecture. Et au final, au niveau sciences, technologies, arts et culture, la Corée, les trois royaumes en général, si on fait une moyenne, ils arriveront au même niveau que le reste des autres pays du monde, en fait. des autres grandes civilisations. C'est-à-dire, je
les
parle
Mayas, les
notamment,
machins.
voilà, Maya, la France, enfin l'Europe. Je ne parle pas des tribus d'Afrique, du désert, je sais pas quoi, bref. Parallèlement au bouddhisme, donc, on a le confucianisme, qu'on avait plus ou moins évoqué tout à l'heure. Il a été introduit dans la péninsule au 1er siècle et s'étend en fait, comme le bouddhisme, dans tous les pays. Forme les esprits grâce à des œuvres littéraires et historiques et introduit du même coup dans les royaumes un système d'écriture basé sur les caractères chinois. Parce qu'il faut savoir que les textes confucéens arrivaient de Chine et étaient écrits donc en chinois.
De toute façon, les textes coréens étaient aussi écrits en chinois.
Oui, mais à la base, il n'y en avait pas tellement des textes. C'est à cette époque qu'ils ont commencé à écrire leur histoire. Chaque royaume a commencé à écrire son histoire et à faire sa propre littérature, grâce justement au système d'écriture, le Yidu. Si je ne me trompe pas, le Yidu qui a été
Oh,
systématisé et affiné par Sun Chong de Silla, un érudit de Silla. Bref, on va passer rapidement hein, sur les arts, tout ça, parce que j'ai un peu envie de finir. J'ai pas envie de faire long aujourd'hui.
enfin, 10 minutes. Déjà que les gens qui nous ont écoutés hier, ils sont tapés l'épisode de 10 minutes. On va peut-être pas faire. Et puis faire long, tes épisodes d'habitude et du moins, hein, d'habitude durent moins de 30 minutes. Donc long, bof.
Oui, mais bon, bref.
En fait, il a pas, il a envie de se faire désirer. Il a vu qu'il y a des gens qui ont dit, oh, c'est bien.
Si tu veux, si tu veux. Bref, on passe rapidement sur les arts, en fait. Bouddhisme, confucianisme, tout ça. Ça entraîne un développement des arts religieux, donc les peintures, les sculptures, l'architecture pour la construction des temples. On leur a dit ça.
Je crois qu'ils ont compris, je crois.
Les petits moines bouddhistes qui viennent de là-bas.
D'Inde. Bref, mais il y a aussi en fait la Chine avait pour habitude d'appeler les Coréens le peuple qui aime le chant et la danse, et c'est vrai en fait. Les danses et les chants étaient énormément présents dans la religion du bouddhisme en Corée. C'était les danses et les chants, c'était des danses et des chants religieux en fait. Ça participait à des rituels religieux de l'époque. Et donc, tout ça, en fait, les religions, le bouddhisme, la doctrine du confucianisme, les arts, les technologies, tout ça, ce sera exporté dans tous les pays avoisinants. Il y aura une grande période d'ouverture culturelle à ce moment-là, pour les trois royaumes, en fait. Et tout ça, ça va s'exporter assez bien au Japon, en fait. Oui, je dis beaucoup, en fait, je sais. Je me tuise. Ça va donc s'exporter au Japon et c'est la Corée qui va apprendre, qui va inspirer en fait les arts japonais. Et je continue à dire en fait, ça m'énerve. Tu je te
Pas
déteste.
grave, c'est pas grave.
C'est ma faute, hein.
C'est ton truc à toi?
Bref.
Bref aussi.
Enfin bref, on va finir sur un petit. Parce que j'ai vraiment envie de finir là. On va finir donc sur un petit détail culturel. Rapport à Shilla, enfin culturel, disons militaire. On se rappelle la dernière fois que je vous avais parlé de la guerre des trois royaumes, avec Goguryeo qui s'étendait vers le sud et qui avait repris tous les territoires autour du Hangan. Et notamment les terres d'origine du royaume de Baekje. En fait, des premières tribus de Baekje et Shilla, avec son. Shilla et Baekje s'étaient alliés et n'avaient pas réussi à repousser Goguryeo et à reprendre ses territoires. Et par contre, Shilla, le royaume tout seul, Shilla avait réussi à reprendre les terres autour du Hangan. Ce qui avait posé pas mal de problèmes au niveau de leur alliance avec Baekje, puisque les terres autour du Hangan, je le redis, c'était les terres d'origine de Baekje. Donc ça la fout un peu mal. Bref, s'ils ont pu faire ça, en fait, c'est parce qu'ils avaient un système militaire plutôt pas mal. Un système militaire basé sur le. Alors, pardonnez-moi si je ne prononce pas bien. Le Hwarangdo.
Non,
La voix du Hwarang. le Hualong étant littéralement un prince fleuri, ça veut dire prince fleuri. Mmh. Les Hualong, donc, c'était les princes de Shilla, si on veut, c'était pas les fils du roi, sinon il en avait un paquet. C'était en fait tous les fils de l'aristocratie qui étaient entraînés dès leur enfance aux arts militaires, qui étaient élevés exprès pour aimer leur royaume. On leur faisait visiter les plus beaux endroits de Shilla pour qu'ils aiment vraiment le royaume. Et ils étaient éduqués selon les codes sociaux régissant la vie de l'époque. Tous les codes sociaux, absolument tous, de toutes les classes sociales. Ça intégrait des enseignements confuciens, bouddhiques, et ils étaient d'ailleurs entraînés aux arts martiaux par les moines bouddhistes.
Classe.
Oui, très classe.
C'était déjà Shaolin coréen.
Bah, dis-toi que souvent, on a pris les moines bouddhistes de Corée pour des moines Shaolin. Mmh. En fait, c'était à l'époque les défenseurs des royaumes. Ils avaient ils avaient un vrai sentiment patriotique, les moines bouddhistes. Mais... Donc, au départ, ils passaient beaucoup. Les moines bouddhistes passaient énormément de temps à méditer, donc position assise ou je sais pas quoi, enfin la position de méditation quoi. Et du coup, ça leur entraînait pas mal de problèmes au niveau digestif, tout ça, si on veut, au niveau des organes internes. Et pour remédier à ça, ils ont développé leur propre art martial.
Ouais.
Le bruit là, c'était le chat qui s'entraîne aux arts martiaux aussi, je crois.
Il a vu une poubelle, la poubelle l'a mal regardé.
Bref, les moines bouddhistes donc ont développé leur propre art martial et pour défendre leur temple contre les armées, parce qu'à l'époque ils étaient un petit peu en guerre avec tout le monde. Enfin, les royaumes étaient en guerre les uns contre les autres, du coup.
Comme chez nous.
Oui. Si tu veux, et du coup, bah, il y avait pas mal de raids des armées des royaumes d'en face sur les temples. Du coup, les moines ont appris à se protéger.
Des raids à 25 et tout ça. Mais...
non, on n'est pas dans World of Warcraft.
Petit moment geek.
D'autant qu'à l'époque, World of Warcraft, c'était plutôt les raids à 40.
À l'époque ?
Ouais.
Je pense qu'à l'époque, c'était même pas le raid à 1, en fait, en vrai.
Bref, je disais quoi déjà ? Oui, donc les moines bouddhistes ont développé leur propre art martial pour défendre leur temple et pour se défendre aussi quand ils se baladaient dans le royaume. Ils ont entraîné donc ces Hualong, les princes fleuris, les fils de l'aristocratie, et ces fils de l'aristocratie donc ont servi de stratèges, en fait, de commandants au sein de l'armée. Ce qui fait qu'ils avaient beau avoir des soldats, c'était les paysans qu'ils avaient armés. Bah, les sergents, les commandants, les généraux, les stratèges, tout ça, ils étaient éduqués pour la guerre, pour protéger leur pays. Et ça a bien marché. Ils ont fait tout seul ce qu'ils n'avaient pas pu faire à deux, avec Baek Jae. Donc, en fait, bah, c'est ce que je voulais, ce sur quoi je voulais finir, en fait, c'était sur ces Hualong, parce que ces Hualong, pendant la période d'ouverture culturelle vers le Japon, ce sont ces Hualong qui ont inspiré la création des bushi japonais, les samouraïs. Le Hualong-do adapté au Japon est devenu le Bushido.
D'accord.
Voilà, je voulais juste finir sur ça. Mm-hmm. Ce qui nous fait une bonne chronique de 15 minutes.
18 minutes, ouais.
Avec le générique, on doit atteindre les 20 minutes. Voilà, c'est bon, c'est fini. J'ai fait mon quota.
Bien sûr. Bon, ouais. Et bah, du coup, on se retrouve demain matin pour le cours de coréen, mercredi pour l'hebdomadaire, et puis après, bon, on reprend comme d'habitude.
Voilà. Et dans un mois pour l'unification des trois royaumes.
Waouh.
Ouais.
Voilà. Bon, à la prochaine.
Salut.